BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
On a une vague énorme de publications effectivement aujourd'hui sur les marchés. On va surfer les différentes annonces jusqu'à la clôture effectivement, voir comment le marché y réagit. Voilà la plus intense session surf du monde, elle est ici BFM Bourse chaque après-midi. Chaque jour on surfe sur les différentes annonces et les réactions de marché. Aujourd'hui on est un peu éclaboussé, faut bien le dire. Etienne Braque nous appelle d'ailleurs, la Tour Euronext en direct. Rebonsoir Etienne, vous nous ferez vivre la clôture dans une demi-heure.
Bonsoir.
Elle s'annonce négative.
Négative, même si vous avez un CAC 40 qui tente de limiter les pertes, hein, puisqu'on était ensemble il y a une heure, il perdait 1,7%. Ce CAC 40, désormais, il perd moins d'1% et retrouve les 8000 points, 8015 points, avec Wall Street qui est toujours en baisse, une baisse marquée, moins 1,7 pour le Nasdaq et pour le Dow Jones, avec une baisse de plus de 10% pour Meta, moins 7% pour Caterpillar, des résultats d'entreprise qui sont vraiment mal orientés aujourd'hui. Nestlé, moins 4%, vous avez Dassault Systèmes qui perd 5%, Hermès qui perd un peu plus de 3%, Adyen à Amsterdam, moins 15%. Donc vous voyez, le marché est vraiment difficile en termes de résultats, hein, même si vous avez des publications qui sont conformes aux attentes, ça a du mal à être acheté aujourd'hui après le beau parcours de ces derniers mois. Et puis à l'inverse, vous avez des bonnes surprises pour Sanofi, plus 4,5, BNP se fait ramasser également, plus 1,3%, avec notamment son patron, directeur général délégué, qui sera l'invité de BFM Business ce soir, Thierry Laborde, à 18h10. Et puis ST Micro également qui se reprend, avec notamment le groupe qui a indiqué ce matin qu'il y avait peut-être un point bas qui a été touché dans le secteur des semi-conducteurs, ça plaît au marché. Et donc l'indice parisien qui fait une petite pause, moins 0,9% pour la Bourse de Paris, qui maintient les 8000 points, mais vraiment de peu.
Effectivement, alors du côté de l'activité, on a un signal de ralentissement. Et pas n'importe où. Aux États-Unis, la croissance américaine du premier trimestre, on l'attendait à 2,2%, elle ressort à 1,6% cette croissance américaine, donc c'est pas très brillant, et d'un trimestre sur l'autre non plus. On va décortiquer, analyser ce chiffre de croissance. Est-ce le début du vrai ralentissement pour l'économie américaine? On se posera la question. Coup de froid sur l'IA également. En tout cas, les annonces de Meta en matière d'intelligence artificielle, cette fois, ne convainquent pas le marché. Meta perd 12% à Wall Street. Ce soir, il faudra suivre Microsoft. On essaiera de vous apporter un coup d'avance dans un instant. Et puis dans le cuivre, cette consolidation en vue, puisque un nouveau géant mondial du cuivre va peut-être voir le jour. BHP propose de racheter Anglo-American pour environ 39 milliards de dollars. Rien que ça. Oui, le cuivre, il est à la base de l'intelligence artificielle et du cloud, puisqu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle et de cloud sans plus d'électricité. Et pour conduire cette électricité, il faudra du cuivre. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Si vous avez raté USA Today, c'était à 15h30 tout à l'heure, on évoquait aussi le secteur du tourisme avec de belles publications, hein, ça se confirme, le secteur du tourisme cartonne. Royal Caribbean, le croisiériste, a publié, c'est positif. American Airlines, Southwest aussi, on en parlait avec Thierry Guy pour Raymond James France. Le replay, si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application, vous la connaissez, BFM Business, ou encore sur bfmbourse.com. Le club, le potentiel des marchés, on va le mesurer. Ils sont là, nos coéquipiers, ils viennent de s'installer avec des idées claires. En tout cas, on va leur demander un maximum d'idées et les plus claires possibles sur les publications du jour. Essayez d'en tirer la substantifique moelle. Rachid Medjaoui, bonsoir Rachid.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre Banque Privée. Et puis Bertrand Puif aussi qui nous accompagne pour Fidélité Internationale. Rebonsoir Bertrand. Vous nous accompagnez en fil rouge, vous étiez avec nous aussi dans la précédente demi-heure pour le bullshitomètre. Étienne nous disait à l'instant, le marché devient vraiment exigeant. Hermès, superbe publication Hermès, le titre perd plus de 2%. Meta annonce vouloir dépenser encore plus pour l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, le titre aurait explosé à la hausse. Là, il recule de 12%. Est-ce qu'on arrive sur un point de marché où effectivement les investisseurs deviennent encore un peu plus exigeants, avec peut-être cette nécessité, ce besoin consolidé qui transparaît davantage dans la façon dont le marché réagit aux publications? Rachid.
C'est tout à fait ça, et Étienne Braque disait que effectivement la plupart des valeurs qui publient correctement ne sont pas bien récompensées. Je crois que, en tout cas pour nous, ça traduit effectivement ce positionnement qui commençait à devenir quand même assez élevé. Toutes les enquêtes montraient que la plupart des gérants depuis plusieurs mois étaient partis à la chasse et étaient revenus relativement pondérés, en particulier tous ceux qui ont des stratégies un peu momentum. Donc pour nous c'est ça. Alors après il faut toujours des catalyseurs et les catalyseurs c'est quand même le sujet des taux d'intérêt qui est probablement et qui va rester probablement le sujet le facteur premier, le catalyseur le plus important. Et tout ce qu'on peut dire quand même, en fait on en parlait, mais la visibilité sur les taux d'intérêt, on savait que ça allait être très compliqué. On avait quand même, on pensait que c'était un peu plus visible sur les banques centrales, ça le devient beaucoup moins. On savait que...
Et juste pour info, pour ceux qui l'ont raté, le 10 ans américain est en hausse aujourd'hui. C'est l'une des explications à la baisse du marché. Le 10 ans américain est à 4,7%. On a eu un chiffre de l'inflation en composante de la croissance. L'inflation toujours très, très élevée, en tout cas solide, collante, l'inflation aux États-Unis, ce qui explique cette nouvelle tension obligataire.
Et oui, vous avez raison. Et sur l'obligataire, on a, pardon, on avait toujours dit que la visibilité allait être extrêmement compliquée parce qu'on ne peut pas à la fois être satisfait d'une croissance globalement et le chiffre qui est tombé aux États-Unis pour moi, enfin, ça reste un très bon chiffre. En fait, il n'y a pas de ralentissement aux États-Unis. Dans le 1,6, si vous enlevez.
1,6 de croissance, c'est sous les attentes.
Oui, principe. C'est sous
Donc les attentes. On a moins de croissance et toujours autant d'inflation. Certains disent on va vers la stagflation.
Quand vous regardez ce chiffre et que vous le disséquez de manière à peu près correcte, vous voyez qu'en fait, la demande domestique est à 3% aux États-Unis. Il y a un effet stock et un effet externe qui est très fort.
Mais... La balance commerciale et la hausse du dollar qui pèsent dans la balance commerciale.
Mais en réalité, la demande des facteurs de la demande domestique tourne autour de 3%, ce qui est beaucoup. Donc, on ne peut pas à la fois tabler, et c'est notre cas, sur des perspectives de croissance et notamment cette resynchronisation positive au niveau mondial et penser que les taux d'intérêt à long terme allaient continuer à rester stables, voire continuer à baisser. Alors voilà, donc on traverse une séquence un peu difficile, des catalyseurs, mais la toile de fond pour nous reste constructive. Je le disais, des perspectives de croissance, les résultats, faut faire attention, ce sont des résultats du quatrième trimestre. On sait que l'économie américaine européenne n'était pas forcément en très très bonne très bonne forme.
C'est pas le trimestre le plus significatif de l'année.
Et au contraire, ce qu'on voit, c'est plutôt de manière dynamique plutôt une inflexion positive. Quand on regarde par exemple le momentum des révisions des analystes, on voit que même en Europe, depuis quelques semaines, c'est plutôt en train de retourner à la hausse. Donc globalement, nous, on s'était positionné comme beaucoup d'acteurs pour une consolidation. Cette consolidation aujourd'hui, elle commence à être significative aux États-Unis, relativement limitée en Europe. Ça aussi, c'est une bonne surprise, mais qui a été jouée, c'est-à-dire l'Europe qui reprend un peu de retard par rapport aux États-Unis. Mais nous ne voyons pas de raison de basculer vers un scénario négatif pour les prochains mois. Il va falloir trouver un point d'entrée. Ça va beaucoup dépendre également du chiffre d'inflation demain.
On y reviendra, effectivement, le PCE demain aux États-Unis. Voilà. Votre regard à vous, Bertrand, sur les publications, le marché est quand même prompt à sanctionner. Hermès, magnifique la publication. Alors, on n'a pas l'IA en France, c'est vrai, mais on a la désirabilité et on a Hermès, par exemple. Et pourtant, le titre, après cette belle publication, perd quand même 2%. Est-ce que c'est le signe que là, on a atteint une forme de plafond sur un certain nombre de secteurs de valeur et peut-être donc une nécessité pour le marché de trouver de nouvelles idées pour la suite?
Ah oui, parce qu'il y a une concentration extrêmement forte des investissements des grands investisseurs internationaux sur un nombre très réduit de valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors aux États-Unis, on a cette magnifique, mais en Europe, on a ce qu'on appelle les granolas, dont font partie les valeurs de luxe. Et c'est vrai que le différentiel de valorisation entre un Hermès, qui s'est toujours traité évidemment avec une prime substantielle par rapport au marché, mais aujourd'hui, on est de 1 à 4. On est plutôt historiquement de 1 à 3, donc on est plutôt dans la fourchette vraiment haute. On est allé chercher des écarts de valorisation. On est à 50 fois, entre 50 et 55 fois sur Hermès, alors que le marché est à 14 fois. Donc c'est vrai, et tout le monde en a. Quasiment tout le monde en a. Donc quel est l'acheteur marginal là-dessus? Il faudrait vraiment que la publication elle soit encore mieux. Et donc c'est vrai que même sur une bonne publication, quand on voit que le titre baisse, il aurait fallu quoi? Qu'il soit 10 ou 15% de croissance pour que peut-être on voit le titre monter. Donc ça en dit long sur le fait que, basiquement, cours d'une action, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont dans leur portefeuille, qui sont à la limite des ratios réglementaires.
C'est ça.
Et donc,
peuvent pas beaucoup la renforcer. D'autant qu'en ayant autant monté, Hermès a aussi augmenté dans la pondération des portefeuilles tout seul, sans même qu'on ait acheté davantage de valeurs, de titres. Donc,
il y a une nécessité de respiration, d'aller trouver d'autres titres sur lesquels il y a moins de pondération aujourd'hui des investisseurs.
Et vous vous dites quoi, en regardant globalement les publications quand même, qu'on est toujours étonné par la capacité des entreprises à parvenir à dégager des marges, protéger le chiffre d'affaires, ou au contraire, là-dessus aussi, on voit que ça commence, c'est doux, c'est lent, mais à se dégrader quand même? même de façon un petit peu plus globale.
Oui, il y a quand même des publications, on note, hein, dans un certain nombre de valeurs industrielles qui ont publié et qui ont du mal, ce qui est logique. Hein. Dans un premier temps, donc, ils répercutent l'inflation, donc c'est très bien, même un peu plus que l'inflation, donc même pour rapport aux marges, ça marche bien. En plus, il y a des stocks qui ont été constitués sur des niveaux de prix plus bas, on les vend sur des niveaux de prix plus hauts, donc on capte cet effet un peu d'aubaine lié à l'inflation, mais ça dure que quelques trimestres, et aujourd'hui, on rentre dans le dur. On voit bien que les matières premières elles ont eu un petit peu de faiblesse fin février, début mars, mais là donc elles se reprennent avec des statistiques en Chine qui laissent d'ailleurs à penser que ce train peut continuer, et donc ça devient compliqué, plus derrière les salaires, hein, pression sur les salaires aux États-Unis, c'est évident, en Europe ça commence à arriver, donc il y a une pression aujourd'hui sur les marges des entreprises et une capacité à augmenter les prix dans l'environnement actuel, notamment en Europe, qui est quand même maintenant limitée, parce qu'ils ont déjà augmenté pas mal.
On est à 19 minutes de la clôture, on entre dans la dernière ligne droite, on accélère en Europe et on recule. Le CAC 40 perd en ce moment à 19 minutes de cette clôture, donc 0,8% notre CAC, mais préserve finalement les 8020 points en ce moment. Dassault Systèmes, après sa publication, perd plus de 5,5%. Également en repli aujourd'hui, le titre Thales, moins 2,4%. Et puis Hermès, dont on parlait à l'instant, Pernod Ricard aussi, qui recule d'un peu plus de 2,4%. À la hausse, Sanofi. Alors, c'est une belle publication, Sanofi, supérieure aux attentes. Le Dupixent voit ses revenus augmenter sur trimestre de quasiment 25%. Les perspectives restent favorable. Et puis le plan de transformation aussi qui convainc de plus en plus de monde, manifestement. En tout cas, c'est ce que nous disait tout à l'heure Eric Blaine vers 16h pour Swiss Life Banque Privée. Sanofi gagne donc aujourd'hui plus de 4%. BNP Paribas aussi a publié, c'est bien, plus 1,2%. BNP Paribas, peut-être de bon augure pour Société Générale, notamment dans les activités de marché. Et puis STMicroelectronics qui ce matin reculait, finalement cet après-midi progresse. Le titre STM, plus 1%. STM qui estime que le point bas est sans doute passé dans l'univers des semi-conducteurs. Le CAC 40 recule donc. Dans quelques minutes, on appellera Étienne Braque depuis la Tour, Euronext, et puis Orcac, Fnac Darty a aussi publié, le titre gagne 4,5%. Bertrand Puif et Rachid Medjaoui nous accompagnent ce soir. Meta, il faut absolument qu'on en parle de Meta quand même. Meta qui annonce donc des dépenses plus élevées qu'annoncées initialement dans l'intelligence artificielle. Et pourtant, le titre perd 12%. Enfin, on aurait pu attendre l'inverse. Au trimestre précédent, si Meta avait annoncé dépenser davantage dans l'IA, on imagine que le marché aurait acheté. Là, le marché n'achète plus. Est-ce que la baguette magique de l'intelligence artificielle opère un peu moins désormais en bourse, Rachid ?
Je suis pas sûr qu'elle opère moins, mais on rentre effectivement dans cette phase où il va falloir monétiser l'intelligence artificielle. Enfin, le message d'hier du marché, c'est celui-là. Il y a aussi le positionnement dont on vient de parler. Enfin, ces titres avaient énormément progressé, oui. Sont très détenus. Mais je crois que plus stratégiquement, et ça on le voyait déjà depuis quelques semaines, dorénavant il va falloir effectivement, pour pouvoir profiter de cette euphorie liée à cette thématique de l'intelligence artificielle, être prouvé que l'on va vraiment monétiser et pas simplement investir, parce que c'est le message d'hier de Meta, c'était on investit lourdement, mais pour le moment on n'a pas forcément de certitude en termes de revenus. Ah oui. Donc je pense que on rentre dans cette période où le marché va vouloir effectivement exiger que ces investissements extrêmement lourds d'une manière soit de productivité soit de revenus se traduisent par des résultats patents.
Meta qui veut devenir un jour leader mondial de l'IA. Le problème c'est qu'il risque de vouloir y aller en mettant trop, enfin en coulant de l'argent, beaucoup trop d'argent peut-être, comme il l'avait fait peut-être dans le métavers où là stratégiquement il s'était un petit peu planté. Pas ça qu'a le marché en tête vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Est-ce que Meta ne voit pas un peu trop gros et oublie d'essayer d'engendrer plus de revenus à court terme grâce à cette IA? Est-ce que Meta veut pas aller trop vite, quitte à sacrifier effectivement les revenus à court et moyen terme, en l'occurrence?
Ça a été toujours le problème de ce groupe-là, hein, qui se comporte encore comme une start-up, oui. En lançant des programmes qui, effectivement, peut-être à 10 ou 15 ou 20 ans, se créeront de la valeur, mais qui, à court terme, pour l'actionnaire, sont difficiles à comprendre. Donc c'est vrai que ces valeurs-là, que nous on appelle des concept stocks, entre guillemets, hein, où on regarde un peu moins, en fait, les déterminants, enfin les chiffres, que la direction, on va dire. Ces concept stocks, il y a des moments où ça marche, et donc il y a eu cet engouement autour de l'intelligence artificielle, comme il y a eu un engouement autour de l'hydrogène, si on s'en souvient, il n'y a pas très longtemps, hein, qui vient d'ailleurs tous les 10 ou 15 ans, on avait eu le même au début des années 2000. Donc voilà, c'est cyclique, il y a un engouement qui arrive, qui repart. Et c'est vrai qu'on a vu aussi Nvidia, il y a eu des prises de profit assez fortes sur Nvidia en vendredi dernier, en attendant sa publication dans 3 semaines, qui va être assez clé aussi pour tout le secteur et pour le marché américain en règle générale. C'est vrai que là, on est sur des niveaux de tension. C'est-à-dire que le marché, les investisseurs n'achètent plus cette euphorie et ont besoin, effectivement, d'avoir des choses tangibles et des business plans avec, en disant, à 3 ans, à 5 ans, combien on va gagner d'argent sur ces investissements.
Oui, Meta, moins 12 en ce moment, donc sur le marché américain. C'est compliqué, Meta, en bourse. Le titre avait bien rebondi, puis là, on repère d'un seul coup 12%. Certains s'amusent sur les réseaux à dire, non, c'est pas Meta, c'est pour les investisseurs, c'est Meta ceinture, là, en l'occurrence. Enfin, oui. Faut bien s'accrocher quand on a ce titre Meta en portefeuille. C'est compliqué, ça dérape et c'est glissant. Et en plus, ce soir, Meta pourrait souffrir de la comparaison avec Microsoft. Après la clôture, Microsoft va annoncer ses résultats. Et pour le coup, autant Meta a du mal à monétiser l'intelligence artificielle, autant Microsoft là-dessus a de l'avance. Et il va pas falloir que Microsoft déçoive sur ce point. Jusqu'ici, ils n'ont pas déçu, ils ont plutôt toujours surpris agréablement. Grâce notamment à Copilot, Microsoft est d'ores et déjà dans la phase de monétisation de l'intelligence artificielle. C'est la valeur star mondiale, c'est la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation désormais, Microsoft. Est-ce que vous craignez cette publication, en l'occurrence, ce soir après la clôture de Wall Street, ou est-ce que Microsoft est sur un tel trend qu'on peut espérer effectivement encore des bonnes surprises sur la monétisation de l'intelligence artificielle, Bertrand ?
Là encore, c'est une question de valorisation. C'est-à-dire que Microsoft, si on avait discuté de Microsoft il y a 3 ou 4 ans, la valorisation était relativement faible par rapport donc au business qui est un business historique de Microsoft qui génère beaucoup d'argent. Et c'est ça l'intérêt de Microsoft. C'est-à-dire que c'est une machine à cash et qui peut réinvestir, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Meta, ou pas autant. Et donc, là, il y a eu cette re-rating, cette augmentation des multiples sur Microsoft qui est liée à cet engouement autour de l'intelligence artificielle. Donc, la valeur va être sensible, grosso modo, à la même chose. Et compte tenu de son poids dans les indices américains et de l'impact que ont les indices américains sur les marchés boursiers mondiaux, la vraie question, c'est effectivement, est-ce qu'une déception, même mineure, et j'allais dire même, est-ce que, même si c'est en ligne, est-ce que ça va suffire pour que les investisseurs, à nouveau, plébiscitent le secteur et cette valeur-là. Après, il peut se passer effectivement, comme Microsoft aussi dit vouloir être le leader dans l'intelligence artificielle, si eux s'en sortent mieux que Meta, les investisseurs peuvent basculer, sans doute, peut-être de Meta vers Microsoft et jouer le fait, donc souvent on joue dans la technologie, hein, que c'est il y a un seul gagnant, pour traduire ça en français, et voilà, il tue tous les autres. Donc c'est vrai que ça peut aussi jouer et limiter effectivement une prise de profit.
Pour l'instant, le gagnant de l'IA, c'est le plus ancien de tous, hein, c'est Microsoft avec ChatGPT, Copilot, voilà. Et puis il y aura Alphabet aussi à surveiller ce soir après la clôture. Alors eux sont en retard sur Microsoft, il va falloir qu'ils prouvent que ce retard n'est pas irrémédiable. Ce sera l'enjeu de la publication en effet ce soir pour Alphabet. En attendant, le Nasdaq, des 3 indices américains, ce soir en direct 17h22, 11h22 à New York. Le Nasdaq est des 3 indices américains, celui qui recule le plus, moins 1,7%. Le S&P lui perd 1,3%. La suite, est-ce qu'on se dit, Rachid, que l'Europe a une énorme carte à jouer par rapport à Wall Street, justement ? La BCE devrait baisser ses taux avant la Fed, par exemple. La valorisation de l'Europe est plus basse que celle de Wall Street. Le rendement des marchés européens est plus élevé que celui de Wall Street. Est-ce que vous sentez venir une tête de tir plus favorable pour l'Europe face à Wall Street, désormais ?
En tout cas, nous, on s'est positionné pour ça, depuis maintenant plusieurs semaines. D'une part, parce que on était gêné par cette méga concentration, alors qui existe également dans les indices européens, mais quand même beaucoup moins. Nous jouons et continuons de jouer plutôt, alors de manière timide, mais quand même un redressement cyclique en Europe. Et les derniers indicateurs venant même d'Allemagne, regardez l'enquête IFO qui est tombée, donne vraiment l'impression que ça y est, ça démarre. Alors faut pas rêver, mais quand même. Les attentes, notamment sur les résultats bénéficiaires, le marché attendait à peine plus 4% pour cette année, compte plus de 10% aux États-Unis. Bon, donc on a beaucoup de vent arrière. Et puis dans les portefeuilles, parce qu'à la fin de la journée, c'est effectivement l'offre et la demande. Le marché est globalement encore très sous-pondéré, valeur européenne versus valeur américaine. Donc on a toutes les raisons. Alors, la seule chose qui pourrait faire dérailler finalement, je dirais, cette rotation, qu'on ne voit pas non plus comme une rotation structurelle, c'est bien entendu, un accident obligataire, parce que vous disiez, la BCE, a priori, devrait baisser les taux avant la Fed, mais on voit quand même que il y a quand même elle est polluée par ce qui se passe aux États-Unis. Au moment où on parle, avant de rentrer, je regardais, il y a pratiquement à peine un peu plus d'une baisse des taux qui est dorénavant pricée aux États-Unis, et c'est septembre. Donc ça va quand même très très vite. À la suite du chiffre qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire croissance forte et inflation
collante.
Et
toujours là.
Donc il faudrait pas qu'on et il faudrait pas qu'on ait. Et puis deuxième chose, il faudrait pas que les prix des matières premières et du pétrole, mais pour le moment la géopolitique n'a pas pro d'effet, viennent nous embêter. Mais si on n'a pas ces deux événements là. Effectivement, le cas d'investissement de l'Europe versus États-Unis est, en tout cas dans nos portefeuilles, nous, c'est ce qu'on a fait depuis maintenant quelques
Alors, années. Justement, le marché a-t-il raison de ne pas s'enflammer outre mesure sur le risque géopolitique? Effectivement, le pétrole, franchement, on est à 87 dollars le baril de Brent, c'est très raisonnable. L'once d'or s'est éloigné de ses records, alors même si on a quand même touché des records il y a quelques jours, mais voilà. On sent pas de stress énorme dans le marché vis-à-vis de cette situation géopolitique. Est-ce que le marché a raison, tort ? Alors, il n'y a que la situation géopolitique qui nous apportera la réponse, voilà. Mais comment est-ce que vous jugez ce comportement de marché ? C'est finalement assez raisonnable, le marché, ou plutôt dans le déni, inconscient ?
Je ne sais pas si on est dans le déni, parce que c'est très difficile, mais si vous voulez, déjà, partons des fondamentaux, il y a quand même ce qu'on appelle des capacités disponibles sur le marché du pétrole, ce qu'on appelle les spare capacity, qui sont sur les plus hauts. Hein, on a pratiquement à 6 millions de barils le jour qui peuvent être monopolisés facilement. Et puis, on a l'impression, mais moi, je suis extrêmement prudent, bien entendu, par rapport à ça, mais on a l'impression que les deux pays qui pourraient embraser la situation ne veulent pas d'escalade. Donc, mais ça reste, bien entendu, quelque chose qui est potentiellement...
Voilà. Israël et l'Iran en l'occurrence. Votre regard, Bertrand, vous suivez de très près les matières premières. Vous estimez qu'il y a une forme de rationalité là du côté des matières premières. Il y a effectivement peut-être une suroffre. Comment est-ce que vous analysez le fait que on a des matières premières qui montent, le cuivre, par exemple, le zinc, enfin voilà, toutes ces matières premières aussi nécessaires à la transition énergétique, aux nouvelles technologies. Mais sur le front du pétrole, la matière première par excellence, on a vu pire comme tension.
Bon, il y a un pilotage politique, à notre avis, jusqu'aux élections américaines, par l'Arabie Saoudite notamment, et qui fera rien, et qui garde en fait ses armes un peu si par hasard Trump effectivement était élu, et qui a à nouveau une rhétorique un petit peu agressive sur le prix du pétrole, comme on l'avait à l'époque avec Trump qui tweetait en disant « je veux que le prix du pétrole baisse, faites ce qu'il faut les Saoudiens ». Voilà, bon, ça leur permet de garder un petit peu de... Voilà, de capacité à également donc agir face à ça. Bon, si on prend l'historique, le détroit d'Hormuz, c'est donc qui serait
entre
bouché,
voilà
exactement, si l'Iran rentrait en guerre avec soit les États-Unis, soit effectivement l'Israël, c'est 20% de la capacité mondiale de pétrole qui transite par ce détroit. Donc c'est 20 millions de barils. Et pour reprendre le chiffre qui avait été effectivement justement mentionné, des 6 millions de supercapacités, de capacités potentielles additionnelles, mettons-le en face de ces 20 millions. Voilà, donc c'est effectivement dans un cas qui a une probabilité effectivement faible, mais si ce cas arrive d'embrasement, le prix du pétrole va exploser. Ça c'est sûr, on va monter à 150 dollars minimum, avec les impacts sur l'inflation colossaux. Et les banques centrales, on peut oublier les baisses de taux, c'est terminé. Donc ça, ce sera un scénario très très négatif pour le marché.
Ouais. Étienne nous appelle, on est à 8 minutes de la clôture, 17h27, effectivement, quelle séance, une vague de publications aujourd'hui. Alors, vous êtes sur le pont, effectivement, vous prenez les vagues et les embruns aujourd'hui pour nous, Étienne, vous êtes tout mouillé d'ailleurs. Depuis la tour Euronext, que de publications, que de vagues, et pour l'instant on est éclaboussé, le CAC est en repli, mais un repli qui tente à se tasser un peu, Étienne.
En effet, avec un CAC 40 qui tente de se redresser, hein, après avoir failli signer sa pire séance de l'année, même depuis mai dernier, finalement, désormais, il perd moins d'1%, avec un marché qui ramasse certaines publications, Sanofi, BNP et même Total, qui va publier ses résultats demain. Donc, mine de rien, ça permet au CAC 40 de grappiller quelques points. Notez les volumes d'échanges qui sont présents à quelques minutes du fixing. 2,3 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. Épreuve que le marché n'est pas tout à fait à l'aise avec la remontée de l'obligataire, qui est notamment sur des plus haut de novembre dernier pour le 10 ans américain à 4,70, l'once d'or se reprend avec une hausse de 0,3% au-delà des 2350 dollars, preuve que vous avez toujours une méfiance qui est là, l'euro-dollar de son côté, l'euro s'apprécie et retrouve la barre des 1,07.
Et la clôture dans maintenant 7 minutes, 17h28, à tout à l'heure Étienne, bien sûr on vous rappellera la tour Euronext, 17h28, la Data Room tout de suite. Votre hub de data chaque soir, les chiffres qui font mouche et qui, c'est vrai, à eux seuls vous permettent d'y voir plus clair sur le marché et la direction que prend le monde. Bertrand et Rachid, êtes-vous prêts ?
Oui.
Vous avez chacun une minute trente pour présenter une data forte. Et pourquoi ceux qui nous suivent doivent vraiment l'avoir en tête avant d'investir ? Bertrand, votre chiffre ce soir, 91%.
Alors 91%, c'est la part du stock, voilà, du LME, du London Metal Exchange, hein, ce qui est un des plus grands marchés donc de matières premières au monde, qui 91% des stocks d'aluminium proviennent de la Russie. Parce qu'effectivement, la Russie a bradé un peu ses stocks, c'était un peu compliqué de ces derniers temps, mais il n'y avait pas d'interdiction totale. Donc ces stocks-là arrivaient un peu en dernier ressort parce qu'ils étaient bradés dans le LME. Aujourd'hui, ce qu'on a eu, enfin pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, et c'est effectif à partir du 13 avril, donc il y a une interdiction d'importation aux États-Unis, mais encore plus au Royaume-Uni, donc où se trouve le LME, d'un certain nombre de matières premières, dont l'aluminium, qui est en provenance de Russie. Et donc, ces stocks-là donc, vont diminuer, ils vont devoir être remplacés par des stocks qui, eux, sont valorisés à un prix plus élevé, puisqu'on n'a pas le discount, la décote qu'on a sur les matières premières russes, compte tenu de la situation. Et donc ça va aider, in fine, fortement le prix de l'aluminium, notamment le prix de l'aluminium européen, parce qu'on va avoir une espèce de micro-pénurie, technique en tout cas, parce qu'il va falloir que le LME, qui est en dernier recours l'organisme sur lequel on va pour pouvoir s'approvisionner, il va falloir qu'il reconstitue ce stock-là. Donc les prix devraient être remontés. On a la même problématique sur le cuivre, hein, ça va aider encore plus le cuivre aussi. On a déjà un momentum sur le cuivre, mais ça va l'aider encore plus. Le cuivre, c'est 62% des stocks de cuivre qui proviennent, à l'heure où on parle, de la Russie et qui devront disparaître au fur et à mesure, qui ne pourront pas être remplacés à nouveau par des stocks russes. Donc ça devrait aider assez fortement. Et il y a une valeur qui devrait s'en sortir, on revient sur l'aluminium qui était notre sujet, oui. C'est Norsk Hydro. Norsk Hydro, c'est une valeur norvégienne qui est le quatrième acteur au niveau mondial et le plus gros en Europe, qui en plus fait de l'aluminium qui est propre, hein, puisque l'aluminium c'est beaucoup d'intensité énergétique, et que là l'énergie c'est de l'électricité verte puisque c'est de l'hydroélectricité en Norvège. Donc cette valeur-là devrait capter cette augmentation du prix de l'aluminium, en particulier en Europe, dans les mois, les trimestres qui vont.
Importante, cette hausse à venir des prix de l'aluminium, pour les raisons que vous nous avez décrites, les mécanismes que vous venez de nous présenter, vous l'attendez importante ou, pour le coup, juste symbolique, enfin, difficile?
On est dans un environnement, oui. Si vous voulez, où ce qui a pesé sur les matières premières, c'est la Chine. La Chine se stabilise. On n'est pas en train de dire que le marché immobilier va reprendre, mais il ne va pas s'effondrer à nouveau. Donc, stabilisation, demande qui provient des énergies renouvelables, et on a cet élément technique qui vient se rajouter. Donc là, on peut penser quand même qu'on ait une hausse assez substantielle, 8-10% liée à ça, graduelle encore une fois, au fur et à mesure que les stocks devront être remplacés par des stocks plus chers.
La Data Room, Bertrand nous a gâtés. À vous, Rachid, de nous éveiller. Votre data, 3,1 millions.
Eh bien, c'est le nombre d'immigrés estimés qui est rentré aux États-Unis en 2023.
Combien ?
Plus de 3 millions. De nouveaux émigrés qui seraient rentrés d'après les estimations du CBO, vous savez, ce bureau du Congrès américain, bipartisan, donc absolument apolitique. C'est un chiffre qui est très forte augmentation, très au-dessus des attentes. Il y a encore 2-3 ans, le CBO pensait qu'on était plutôt sur un rythme de 1 million. D'ailleurs, entre le CBO et le BLS, qui est l'équivalent du ministère du Travail, qui calcule les chiffres de l'emploi, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a pratiquement 1 million de différences. Alors, ce sujet de cette vague d'immigration, alors certains parlent de crise migratoire également aux États-Unis, pose bien entendu d'énormes défis, et en particulier dans une année électorale, c'est un sujet brûlant. Mais du point de vue économique et des marchés, pour le coup, il y a un consensus très fort pour finalement dire que c'est du pain béni pour l'économie américaine, parce que une partie de la surprise à la hausse de la croissance économique en 2023 et probablement en 2024 serait due à cette vague d'immigrés qui a permis, bien entendu, de créer de la richesse, de la consommation, mais également plutôt une bonne nouvelle pour apaiser les tensions sur le marché du travail.
Ah oui.
Voilà. Et donc, cette histoire, ce chiffre d'immigration extrêmement fort est devenu pratiquement un élément très important, d'autant plus important que même M. Powell, le patron de la Réserve fédérale, l'a cité de manière très importante lors de la dernière réunion pour expliquer pourquoi l'économie américaine avait été beaucoup plus résiliente que prévu et pourquoi il estime qu'il faut conserver l'idée que l'inflation va continuer à se modérer et que l'inflation salariale va plutôt se modérer dans les prochains mois.
Et oui, c'est sans doute la clé. On garderait la croissance, mais moins d'inflation salariale.
Absolument.
Et c'est une clé majeure, effectivement, plus d'immigrés que prévu sur le territoire américain sur l'année 2023, d'après ces chiffres qui ont été publiés, 3,1 millions. Effectivement, c'est porteur pour l'économie et c'est peut-être un peu d'eau au moulin de la réserve fédérale américaine aussi pour peut-être finir par baisser ses taux, même si les États-Unis resteraient en très très soft landing.
Alors après, effectivement, ça pose des défis, tellement des défis que
l'équivalent. Ça pose d'autres défis, oui.
Le ministre de la Sécurité a été en quelque sorte destitué au mois de février.
C'est un argument électoral.
Mais économiquement, c'est une excellente nouvelle pour l'économie américaine.
Mais c'est un sujet de campagne au cœur de la présidentielle. Absolument. Là-bas. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Rachid Medjaoui pour Louvre Banque Privée, Bertrand Puif pour Fidelity. C'était la Data Room. Dans un instant, la clôture, on va la vivre en direct. Cette clôture d'une séance assez incroyable avec tant de publications. 11 groupes du CAC aujourd'hui ont publié. Il y a pas mal de sanctions négatives, mais aussi des rescapés. On appellera Étienne Braque à la Tour Euronext juste après la pause. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Toutes les datas boursières du jour sont réactualisées. Puis cet article consacré à Carrefour aussi. Carrefour, l'une des baisses du jour après une nouvelle baisse, un nouveau repli de ses ventes en France, mais pas qu'en France. L'article est disponible. Vous pouvez bien sûr le consulter. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Et quelle clôture, hein, c'est la plus grosse, la plus dense séance de la semaine qui s'achève. Étienne Braque est avec nous depuis la Tour Euronext. Comment termine-t-on ce soir sur le CAC ? Dans quel état les marchés européens sont-ils, Étienne ?
Dans le rouge, mais pas sur les plus bas niveaux de la séance, avec un CAC 40 qui limite à peu près la casse, moins 0,9% pour l'indice parisien, qui a perdu jusqu'à 1,7% en séance, et puis qui s'est repris aux alentours de 16h, avec quelques titres qui étaient en forte baisse, qui ont été ramassés, à l'image notamment de Hermès, qui perdait quasiment 4%, qui perd finalement 2,3% à 2297 €. Vous avez Dassault Systèmes qui perd 4,2%. Là aussi, comme chez Hermès, vous avez des résultats qui sont en ligne avec les attentes, mais ce sont les deux valeurs les plus chères du CAC 40, donc le marché est très exigeant. Et puis à l'inverse, sur des dossiers où le marché n'attendait pas grand-chose et où les résultats sont présents, voire légèrement supérieurs aux attentes, eh bien là, ça se passe très bien. C'est le cas notamment de Sanofi qui gagne 4,5% à 91,62. BNP Paribas qui fait mieux que prévu, gagne 0,9% à 68,36. Vous avez Deutsche Bank et Barclays également qui gagnent plus de 5% en Europe après des résultats largement au-dessus des attentes. Et puis hors CAC 40, vous avez des sociétés qui rassurent, à l'image notamment de Verallia qui a beaucoup inquiété avec une normalisation dans la partie spiritueux. Le titre reprend 4,7%. Ce soir, vous avez Fnac Darty également, là où le marché était très prudent, qui étonnait positivement, plus 5% ce soir pour Fnac Darty. Et puis le secteur des semi-conducteurs également, qui est entouré à l'image de STM, qui certes a publié des résultats en dessous des attentes, mais dans la conf-call, vous avez un groupe qui estime qu'un point bas a sûrement été touché. Le marché apprécie et préfère voir le verre à moitié plein, plus 1,1% à 39,66. Du côté de Wall Street, c'est compliqué. Le Dow Jones est en passe de vivre sa pire séance de l'année, moins 1,5, avec notamment Caterpillar qui perd 7%, et puis surtout le Nasdaq qui recule de quasi 1,7% sous le poids de Meta qui perd 10%, Microsoft perd 4%. Voilà la publication de ses résultats ce soir. Idem pour Alphabet, la maison mère de Google, qui va publier aux alentours de 22h. Donc de la pression baissière un petit peu, quelques prises de bénéfices autour des valeurs technologiques aux États-Unis et le CAC 40 qui plie de 0,9%, 8016 points. Mais grâce à de belles séances lundi et mardi, pour l'instant, il est stable depuis le début de la semaine.
Quelle leçon et quels signaux pour la suite. Romain Dobry aussi nous appelle depuis Bourse Direct. Bonsoir Romain. Limiter les dégâts en clôture, on préserve les 8000, mais enfin c'est quand même un repli assez net, moins 0,9 sur le CAC. Comment est-ce que vous voyez la suite?
Effectivement, les niveaux sous lesquels on avait déclenché l'accélération baissière ont été mis à profit pour déclencher un nouveau mouvement de baisse. On n'a pas réussi à les déborder, mais on préserve en clôture les niveaux d'alerte, les niveaux de réactivation baissière. Sur le CAC 40 futur mai, ça donne 7926 qu'on a réussi à réintégrer en fin de séance. La borne haute, c'est 8045 et la médiane de trading range, c'est 7981. On est donc installé en dessous ce soir, ça confère un biais un peu plus baissier à ce marché, d'autant plus que la baisse du jour s'est faite dans un volume de 3,9 milliards, c'est un peu plus que la moyenne. On va avoir une séquence intéressante à venir puisqu'on va avoir demain des chiffres d'inflation aux États-Unis et puis une semaine prochaine très dense du côté macroéconomique avec notamment bien entendu la Fed et puis les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Donc attention à ce qui est un petit peu lourd dans le marché actuellement.
Oui, vous voulez nous dire que c'était qu'un apéritif aujourd'hui. Dites donc, c'était un gros apéritif. Parfois, vous savez, il y a des gros apéritifs et on oublie que derrière, il y a le dîner. À venir la semaine prochaine encore, pas mal de plats de résistance, effectivement. On ne s'est pas ennuyé, en tout cas aujourd'hui. Demain aussi, Total Energy doit publier. Il y a Safran aussi qu'il faudra suivre demain. Rémi Cointreau également. Merci beaucoup. Romain Dobry, puis Bourse Direct, qui nous accompagne jusqu'à 18h. On va tout de suite débriefer cette séance, répondre aussi aux questions que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux. L'autre fil X, BFM Bourse, l'autre fil LinkedIn également. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Clémence de Rothiacob nous accompagne ce soir. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue gérante pour Richelieu Gestion. Éric Lewin aussi est avec nous ce soir, le rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir Éric.
Bonsoir mon cher Guillaume, bonsoir à tous.
Ravi aussi de vous retrouver. Et puis Romain donc qui nous accompagne jusqu'à 18h. Clémence, un mot global sur la façon qu'ont les marchés de réagir aux publications. Moins 0,9 ce soir le CAC. Alors il y a aussi une pression obligataire. Les taux obligataires, il ne faut pas les oublier. En milieu des publications, les taux obligataires montent. Le 10 ans américain est à 4,7% ce soir. Mais est-ce que le marché vous semble désormais plus sévère, plus exigeant vis-à-vis des entreprises?
Oui, certainement. On voit qu'une publication en ligne ne suffit pas aujourd'hui. À la nervosité face aux publications, on peut rajouter aussi des craintes ravivées de stagflation. On a eu des statistiques américaines qui ont été un cocktail explosif. On a des surprises à la hausse de l'inflation face à des surprises plutôt en baisse de croissance du PIB. Donc, il n'en fallait pas beaucoup plus pour que les traders décalent à décembre la première baisse des taux de la Fed. Donc, ça a rendu assez nerveux les marchés des taux et puis par capillarité, évidemment, le marché action, ce qui fait aussi que les défensives surperforment aujourd'hui face aux cycliques qui sont largement allégées par le marché.
C'est vrai, voilà, la croissance américaine ressort inférieure aux attentes. On attendait à 2,2%, elle ressort à 1,6%, mais c'est aussi beaucoup lié aux effets de change. Le dollar qui monte, la balance commerciale américaine souffre un petit peu. En revanche, le consommateur, lui, est toujours là. Et l'inflation aussi, c'est ce qui ressort des composantes sous-jacentes du chiffre publié. Ce qui explique donc que malgré une croissance comme ça qui ralentit, le 10 ans américain, lui, progresse quand même à 4,7%. Donc ce soir, une explication aussi à la baisse du Nasdaq. Puis on a aussi Meta, c'est vrai, Meta qui souffre, moins 12%. À Paris, à tout seigneur, tout honneur. Eric, Sanofi, ce soir, signe la plus forte hausse du CAC, plus 4,5% après sa publication. Est-ce qu'on a le début peut-être là d'une nouvelle dynamique à venir pour Sanofi, d'après vous?
Écoutez, alors, nouvelle dynamique, peut-être pas, mais Sanofi, c'est quand même un titre qui perd 13% en un an, donc il fallait arrêter l'hémorragie. Non, ce dont on se rappelle, c'est qu'en octobre dernier, il y avait eu un gigantesque problème de confiance de la part de la société avec une révision et un abaissement des objectifs de marge pour 2025. Le titre avait été sévèrement puni. Là, finalement, ça se passe pas trop mal, même si la publication, il y a une baisse de 14% du revenu opérationnel, mais en raison notamment d'effets de change. Ce qu'on doit dire, c'est que le Dupixen, qui est toujours le blockbuster du groupe, ça représente 27% du chiffre d'affaires du groupe. Et quand on regarde, très honnêtement, Guillaume, la valorisation de Sanofi, moi je le dis toujours, c'est l'une des pharmaceutiques les moins chères au monde. Elle vaut 11 fois les bénéfices, il y a un rendement de 4%. Et ce qui sera intéressant de voir sur Sanofi, vous savez, ils voulaient coter le pôle santé grand public. On parlait de ça pour octobre, voire novembre de l'année prochaine. Maintenant, il y a des bruits qui courent, comme quoi il pourrait y avoir une cession. Donc moi je pense que Sanofi autour de 90-92 euros, il y a encore du potentiel pour aller gagner au moins d'ici la fin de l'année une quinzaine de pourcents. C'est un titre très en retard par rapport à l'ensemble du CAC 40, puisque je crois que depuis le début de l'année le titre fait 1%, il perd quand même 13% en un an.
Oui, Sanofi ce soir termine en tête du CAC 40. On a cette question d'un auditeur, il s'appelle Oubald sur le réseau X. Est-ce qu'il se confirme, Clémence, c'est pour vous cette question, est-ce qu'il se confirme que l'avenir de Sanofi sera porteur de grands changements avec le plan stratégique qui avait été annoncé il y a quelques mois? Et puis ce soir, après la publication, les perspectives annoncées, cette hausse de quasiment 4,5%.
Alors, grand changement, c'est beaucoup dire, mais à notre sens, c'est une histoire intéressante, en effet, de retournement. On a un certain nombre de choses qui sont très prometteuses. Alors déjà, la valorisation, vous en parliez, on a une décote de 18% à peu près par rapport au comparable, qui n'est plus justifiée aujourd'hui, puisqu'on a quand même un certain nombre de produits qui sont très prometteurs dans le pipeline. On devrait avoir, il y a un certain nombre également de produits donc, qui sont en phase 3, donc qui sont bientôt mis sur le marché. Et puis, c'est le retour de la croissance à deux chiffres, des bénéfices par action dès 2025. Donc c'est vrai que c'est assez c'est tentant de commencer dès maintenant à se réintéresser à ce grand groupe pharmaceutique diversifié, effectivement, et puis avec potentiellement, vous en parliez, des arbitrages d'actifs au sein du portefeuille qui peuvent être intéressants, monétiser un peu de valeur cachée dans le groupe.
Autre valeur qui se distingue, un petit peu schizo ce titre, c'est ST Microelectronics. Ce matin, le titre perdait 4%. Ce soir, il termine en hausse de plus d'1% après la publication. Lequel des deux STMicroelectronics nous permettra de mieux prédire son avenir en bourse? C'est celui qui baissait ce matin, donc plutôt un avenir négatif, ou plutôt celui ce soir finalement qui, au cours de l'après-midi, a réussi à redresser la barre, Clémence?
C'est assez intéressant parce que ça montre vraiment le sentiment des investisseurs. On a une publication qui est bien inférieure aux attentes. Il coupe les prévisions de l'année et d'une ampleur qui n'était pas attendue par le marché. Et on voit en fait qu'il y a à la fois des rachats de ventes à découvert, certainement les hedge funds qui se couvre, puisque c'est un titre qui était quand même assez shorté, et à côté de ça, un positionnement qui se les investisseurs qui se repositionnent sur un dossier qui à moyen terme a vraiment énormément de potentiel. Donc on peut se dire que le point bas est atteint et que finalement les attentes ont été remises à plat et maintenant on se concentre sur les méga trends que va adresser le groupe avec des très très solides expositions, électrification, digitalisation, etc. Donc c'est une société finalement qui devient sur des niveaux, on est dans un creux et on peut comprendre ce genre de mouvement. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est assez technique aussi. On achète une mauvaise nouvelle, qui peut-être la dernière.
Et Eric, c'est le ST Microelectronics en baisse de ce matin qui est le plus prédictif de l'avenir du titre, ou plutôt celui qui a réussi à dresser la barre et est terminé en hausse d'un pour cent?
Ben écoutez, je suis assez d'accord avec Clémence. Quand on regarde le titre, il perd quand même 11% depuis le début de l'année. Ce qui est à retenir quand même, c'est qu'au-delà de la révision d'espèces de sales warning sur 2024 et aussi bien en termes de rentabilité qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est qu'à Texas Instruments qui a publié des bons résultats, je crois que c'était mardi soir, en disant qu'il y avait une reprise de la demande dans tout ce qui concerne l'automobile et l'industrie. Et quand vous regardez les prévisions mondiales dans les ventes de semi-conducteurs, on a fait une année 2023 à moins 8%, Guillaume, et on va sans doute faire une année 2024 à plus 13%. Évidemment, l'intelligence artificielle, mais pas que, notamment l'automobile et l'industrie. Donc moi, j'ai envie de dire que sur STM, là aussi, on a beaucoup baissé ce matin, on perdait 4 à 5%. Et puis, il y a eu des rachats à bon compte sur un titre quand même qui ne vaut que 10 fois ses bénéfices. Donc là aussi, je suis, même si la séance aujourd'hui est un peu volatile, je suis globalement positif pour STM en me disant que ça va repartir dans les semi-conducteurs et le groupe devrait faire une bonne année. En tout cas, bonne chose, c'est qu'ils ont révisé à la baisse aussi bien le chiffre d'affaires et les résultats. Donc si on avait une nouvelle un petit peu meilleure d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir un effet élastique sur un titre qui pourrait revenir vers 46-47 euros assez facilement.
ST Microelectronics, on vous rappelle la clôture ce soir, il est 17h48, le CAC 40 a finalement reculé de 0,9% mais a préservé les 8 016 points en clôture. Eric, Dassault Systèmes, alors aussi, c'est vraiment l'avalanche de publications aujourd'hui, on est tous éclaboussés là, c'est une pluie, on est tous arrosés. Bon, et ce soir, parmi les plus forts replis, donc Dassault Systèmes moins 4. On a aussi Pernod Ricard que vous avez repéré à moins 2,5%. Laquelle des deux vous inspire le plus là pour guider nos auditeurs et téléspectateurs? Pernod Ricard ou plutôt la lanterne rouge du jour sur le CAC Dassault Systèmes?
Bah écoutez, je trouve que sur Dassault Systèmes quand même, en fait je voulais vous parler au début de Pernod, mais finalement oui, j'ai changé un peu mon fils d'épaule. Sur Dassault Systèmes, je trouve quand même que le marché est un peu difficile avec ce groupe, parce que le groupe a quand même réaffirmé ses objectifs 2024. Quand on voit le premier trimestre, on a un chiffre d'affaires plus 5%, 1,5 milliard. Le chiffre d'affaires et licence progresse de 7%. Bon, alors c'est vrai que dans la science de la vie, qui est un secteur très attendu parce que c'est le développement du groupe, on a un chiffre d'affaires en baisse de 2%. Mais moi, je trouve qu'on est quand même extrêmement sévère sur ce dossier. Alors pourquoi on est aussi sévère sur ce dossier? Eh ben parce que Dassault Systèmes traditionnellement se paye très très cher. On est sur des ratios de 35 à 37, donc c'est un petit peu cher. Mais là aussi, moi franchement, quand je regarde l'évolution du titre, moins 16% depuis le début d'année, moins 22% en 3 mois, autour des 36-37 euros, on n'est pas loin des plus bas depuis 6 mois. Moi j'ai envie de mettre aussi une petite pièce dessus. Alors je ne fais pas exprès d'être positif sur tous les titres, rassurez-vous, c'est pas comme ça, mais je trouve qu'on a été un petit peu trop loin quand même aujourd'hui sur Dassault Systèmes.
Dassault Systèmes, lanterne rouge, effectivement. On a parlé d'Hermès beaucoup dans le club tout à l'heure. Si vous avez raté le direct entre 17h et 17h30, vous pourrez trouver le replay également sur notre site BFM Bourse ou notre application BFM Business sur Hermès. On n'a pas d'IA, on n'a pas beaucoup d'IA sur le marché parisien. En revanche, on a de la désirabilité, c'est Hermès. Quelle publication magnifique. Pourtant, le titre a été sanctionné, moins 2,5. Donc, replay sur notre application, n'hésitez pas à le consulter. Clémence, demain, on aura d'autres publications. Total publie demain, oui, c'est
oui,
ça. On va terminer la semaine en ouais, chapeau de roue, là.
Oui, Total publie demain, même si on ne s'attend pas à énormément de surprises. Alors, on sait que, de toute façon, la baisse des prix du gaz va impacter la plupart des pétrolières ce trimestre-là. La hausse du prix de pétrole, on la verra plutôt pour le T2. On ne devrait pas avoir de grandes surprises demain. De toute façon, Total, ce qui intéresse les investisseurs, c'est la transformation. Il y a un tiers des investissements aujourd'hui qui sont faits dans les énergies renouvelables. Donc, le groupe est en train de se réinventer dans cette partie-là, et puis un retour à l'actionnaire qui est assez exemplaire, avec à la fois un programme de rachat d'actions qui continue, et puis un rendement qui est très élevé, qui est largement couvert. C'est un des titres qui est très décoté si vous comparez au comparable américain. Donc ça, c'est assez intéressant. On a une conversion, les flux de trésorerie sont largement couverts, enfin le dividende est largement couvert par les flux de trésorerie. Donc pour nous, c'est vraiment un incontournable dans le secteur.
Et alors, puisqu'on parle de de Total, on va parler des matières premières au sens très 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 large et pourquoi pas même des valeurs minières. On a une énorme consolidation à venir manifestement dans le cuivre, peut-être la naissance d'un nouveau leader mondial du cuivre, cette offre de BHP sur Anglo-American. On est au début d'une vague là, de fusion-acquisition dans cet univers des matières premières.
Mais peut-être qu'on sera au début d'une surenchère aussi. Il n'est pas acquis que BHP arrive à mettre la main sur Anglo-American. Rappelons les choses, Anglo-American, il y a à peu près 40% d'exposition au cuivre et le cuivre, c'est vraiment ce qui intéresse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une matière première qui va être en déficit dès le deuxième trimestre. Une demande qui va être très forte, exposée à infrastructures vertes, data centers, etc.
L'IA, il faut du cuivre. Le cloud, il faut du cuivre. Parce que pour tout ça, il faut de l'électricité. Pour la conduire, il faut du cuivre.
Il y a très peu de capacité de production. Il y a plusieurs acteurs qui sont exposés au cuivre. Alors, il y a des pure players, comme Antofagasta, qui est un groupe minier chilien, familial, coté à Londres. Donc, pure player, mais avec très peu d'expansion des capacités. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Anglo-American, qui devrait multiplier par deux ses capacités de production de cuivre dans les années à venir. BHP fait une offre aujourd'hui 100% titre. Nous, on estime qu'il y aura peut-être un chevalier blanc qui va être cherché par le board d'Anglo. Il y a beaucoup d'autres groupes qui pourraient être intéressés. Alors, les grands, Rio, Valley, etc. Pourquoi pas également des groupes chinois, des groupes indiens. On se souvient que Vedanta, à une époque, avait été très intéressé aussi par le dossier. Ou même d'autres acteurs. Alors, Glencore a un bilan qui peut-être le permet un petit peu moins, un peu plus petit, à moins de capacité que BHP. En tout cas, à notre sens, l'histoire de cette acquisition ne va pas s'arrêter là.
Une valeur pour jouer le cuivre, enfin, c'est une thématique qui vient dont vous vous dites qu'elle a beaucoup de potentiel, justement parce que du cuivre, il en faut pour la transition énergétique, pour l'IA, pour le cloud, pour les véhicules électriques.
Il y a beaucoup d'acteurs qui sont exposés au cuivre. Il y a Lundin Mining, par exemple, First Quantum. Mais pourquoi pas, même malgré la hausse du titre aujourd'hui d'Anglo-American, pourquoi pas se positionner Antofagasta, un pure player, mais moins de potentiel avec l'expansion, donc un peu moins de croissance.
Eric Lewin est toujours avec nous. Eric, challenge. Vous avez 40 secondes pour évoquer un autre titre intéressant qui a publié. On reste dans l'univers justement de l'électrique et un groupe d'ailleurs qui pourrait bénéficier du déploiement de l'IA parce qu'il faut des équipements électriques pour tout ça, c'est Schneider Electric. La publication, elle n'a pas été complètement du goût des marchés. Comment est-ce que vous interprétez la réaction boursière ce soir ?
Bon, écoutez, d'abord, Schneider, c'est un titre qui surperforme vraiment depuis quelques années. Ça fait plus de 77% en 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fini le petit groupe industriel. Maintenant, ils veulent être leader mondial de ce qu'on appelle l'industrial tech. Vous savez, c'est toutes les initiatives technologiques qui aident à digitaliser, à disrupter l'industrie. Ce qui est à retenir quand même, c'est que les ratios de valorisation, aussi bien financiers que boursiers, sont du niveau d'une tech, puisqu'ils devraient tirer cette année entre 18 et 18,2% de rentabilité avec un PE de 25. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent vraiment aller à fond dans notamment le domaine du logiciel. Vous savez qu'ils discutent en ce moment pour acheter Bentley Systems, spécialisé dans les logiciels de modélisation d'infrastructure. Le numérique représente maintenant 56% du chiffre d'affaires du groupe. Donc on a complètement vrillé, on n'est plus du tout industriel, mais on est de plus en plus tech et numérique. Par contre, je pense que sur Schneider, l'heure est peut-être à quelques prises de bénéfices. On est quand même sur une valo de 122 milliards. Mmh. On gagne 15% depuis le début de l'année, je le disais, 173% en 5 ans, 53% en 3 ans.
Oui.
Ça vaut une petite consolidation quand même. Moi, je rachèterais plutôt en dessous de 200, alors que là, on vaut entre 210 et 212.
Merci Eric. Eric Lewin, directeur des publications Agora. Merci beaucoup Clémence de Rothiacob, gérante pour Richelieu Gestion. Merci de nous avoir accompagnés. Je crois que c'était votre première dans BFM Bourse depuis de nombreuses...
Oui, ouais, bah,
première réussie, et si vous voulez revenir, bah, vous êtes complètement la bienvenue.
Avec plaisir.
N'hésitez pas. Et on remercie aussi, bien sûr, Romain Doury qui nous accompagnait depuis Bourse Direct. Le CAC 40 ce soir a perdu 0,9%, mais préservez les 8000 points, 8016 points en clôture. Dans un instant, c'est Thomas Asportas. Good evening business jusqu'à 20h. Bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.